Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, coup d'envoi hier dimanche en Égypte de la COP27, la réunion annuelle des États pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. Parmi les représentants de la RDC, le recteur de l'Université de Lubumbashi va défendre le point de vue du pays, notamment en matière de réchauffement climatique. Nord Kivu, plusieurs villages du groupement Ikobo dans les territoires de Walikale sont vidés de leurs habitants depuis ce lundi matin. Une situation consécutive à la reprise des combats entre deux groupes armés. L'invité de ce journal est l'activiste et artiste et musicien d'Épaule Paluku. Ce membre du collectif Goma Action plaide pour l'assistance des milliers de déplacés installés dans les abris des fortunes en territoire de Niragongo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Coup d'envoi hier dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte de la COP27 qui est la réunion annuelle des États pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. La RDC y prend part et parmi les membres de sa délégation se trouve l'université de Lubumbashi conduite par son recteur Gilbert Kishiba. Pour ce scientifique, l'INILU va défendre le point de vue de la RDC, notamment en matière de réchauffement climatique. En outre, indique-t-il, son institution est aussi un appui et une consolidation de la position de la RDC qui se présente comme un pays solution au regard de la richesse de son écosystème et de sa biodiversité. On écoute Gilbert Kishiba au micro de Jean Gandou.
Nous allons à la COP27, comme bien d'autres scientifiques, continuer le plaidoyer en rapport notamment avec ce qui avait été produit et proposé à l'humanité à Yangambi et à Kinshasa pour le compte notamment des justes compensations et des contreparties du fait de l'importance des séquestrations des carbones et de la disponibilité de la RDC pour pourvoir en forêt et autres protections des écosystèmes et biodiversité par rapport au réchauffement climatique. Nous sommes un appui, une consolidation de l'argument de la RDC à la COP27. Nous voulons insister sur les contreparties et les compensations vis-à-vis des services en équilibre des écosystèmes et des biodiversités que le bassin continental et d'autres bassins rendent à l'humanité. Nous allons donc nous charger, entre autres, de présenter le point de vue de la RDC, point de vue des scientifiques.
Au Kasaï oriental, hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires en Bujimaï. Le panier de la ménagère fait face aux difficultés financières dans cette province. Une situation qui inquiète plusieurs habitants de la ville de Bujimaï. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les prix de toutes les denrées alimentaires et ceux des produits de première nécessité ont galopé dans le marché de Mbujimaï. À titre illustratif, un sac de 50 kg de maïs se négocie actuellement à 87 500 francs congolais au lieu de 42 500 francs vendus il y a quelques semaines. Aucune explication n'est donnée par les vendeuses de ces produits alimentaires.
Je vends au prix du marché. Je n'ai pas volé. Je vends à 5 000 francs. Une autre personne peut vous vendre à 4 500. Je bénéficie de 2 ou 3 000. Il y avait carence. Maintenant, on a fait les ramassages de wagons par la SNCC.
Annie Ilunga, une des ménagères, s'inquiète.
La mesurette de maïs qui coûtait 3 500, actuellement c'est 4 000 francs, voire 6 000. Les taux d'échange de dollars est en baisse. La mesurette d'huile de palme est à 150 francs. Les sacs de braise à 35 000 francs. Difficile de manger avec les enfants à la maison.
Signalons que la hausse des prix des produits alimentaires et manufacturés se fait sentir pendant que les grands marchés Bakwadianga et Ouedrafa dans la commune de la Mouya sont inondés de marchandises. Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, le plan stratégique multisectoriel de malnutrition élaboré depuis 2019 lors des états généraux de l'agriculture et de la nutrition souffre de la mise en œuvre. En cause notamment le faible engagement des parties prenantes, la crise institutionnelle dans cette entité ainsi que le coronavirus. Ce plan a été recadré et adopté samedi dernier pour la période 2023-2025 par toutes les parties concernées. C'était autour d'une rencontre présidée par le vice-gouverneur de province de la Tchopo. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Les états généraux de l'agriculture et la nutrition organisés dans la Tchopo en octobre 2019 ont révélé que 43% d'enfants souffrent de malnutrition. Pour y faire face, des solutions ont été envisagées dans un document dénommé « Plan stratégique multisectoriel de nutrition ». Il faut absolument mettre ce plan en œuvre, déclare le docteur Fancy Bailongandi, chef de division provinciale de la santé.
Toutes ces activités qui sont déclinées dans ce plan stratégique, si on arrive à les mettre comme il se doit, vont nécessairement aider à c'est que l'on puisse, à l'horizon 2030, arriver à réduire suffisamment la malnutrition sous toutes ses formes.
Les parties prenantes sont d'accord qu'il faut non seulement générer les ressources, mais qu'il faille également bien coordonner les différentes interventions dans cette entité. Sinon, affirme Arnaud Batumbu, président provincial de la Société civile de la santé, aucun développement n'est envisageable.
Pour qu'on arrive à un développement, il faut d'abord le capital humain. Et le capital humain commence par la tête de l'homme. Et quand la tête de l'homme ne fonctionne pas bien, par suite de la malnutrition qui est intellectuelle, il aura aussi les effets aussi sur le plan physique et avec les effets sur le plan intellectuel et physique, ça aura aussi des entraînements négatifs sur le plan économique et du développement.
Outre l'UNICEF, seul intervenant jusque-là dans ce secteur, d'autres partenaires sont attendus prochainement pour la signature de la charte d'engagement. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans les territoires de Walikale au Nord Kivu, plusieurs villages du groupement Ikobo sont vidés de leurs habitants depuis ce lundi matin. La situation est consécutive à la reprise des combats entre des groupes armés. C'est notamment l'Enduma pour la défense du Congo, NDC rénové de Guidon et le Front patriotique pour la paix FPP de Cabidon. Selon les sources sur place, les deux groupes se disputeraient l'occupation de ces villages dégarnis par les militaires FARDC depuis le 30 octobre dernier. Des détails avec Bernard Denyangui.
C'est entre minuit et 3h du matin que les combattants de Nduma Defense of Congo NDC rénové auraient lancé des attaques simultanées contre les hommes des FPP de Cabidon dans le village Roussamambu et Bukumbiroa, indiquent les sources de notabilité et celles de l'administration locale du groupement Ikobo. Selon ces sources, les affrontements ont duré jusqu'à l'aube. Conséquence, la psychose s'est emparée des populations de ces deux agglomérations, mais aussi celle de Buleusa, chef-lieu du groupement. Tous ces habitants ont fui leur village, les uns en brousse, les autres vers Kimaka, Mirigi, Kanyabayonga et Luofu, au sud du territoire voisin de Lobero. Rappelons que c'est depuis le dimanche 30 octobre dernier que les militaires FARDC qui étaient déployés dans Ikobo ont quitté la zone en raison des urgences opérationnelles dans le territoire de Rutshuru, selon le porte-parole du secteur Sokola 2. Du coup, les deux groupes militaires se disputent l'occupation de ces entités, déplorent les notables et cadres de base de cette partie du territoire de Walikale. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, un collectif de jeunes volontaires, toute catégorie, dénommé Goma Actif, se démarque à travers des actions humanitaires en faveur des déplacés de Rutshuru se trouvant à Kanyarutinya. Ce groupe de jeunes organise chaque jour un repas composé de la bouillie et du pain en faveur des déplacés, notamment des enfants et les femmes vulnérables. C'est pour atténuer tant soit peu la souffrance qui touche ces personnes en attendant une aide humanitaire appropriée, nous ont-ils déclaré. Avec des moyens de bord constitués de leurs propres contributions et dons faits par d'autres bénévoles, ce collectif arrive à nourrir chaque jour au moins 5000 personnes dans quelques sites, notamment celui de Kayembe. Sifa Maguru, reportage.
D'après ces jeunes, il est inconcevable d'assister comment des êtres humains meurent de faim sans rien faire, tout en sachant que l'aide humanitaire des ONG et du gouvernement prenne du temps à cause des procédures, nous a déclaré De Paul Bakoulou, membre du collectif. Il appelle les autorités à plus de proactivité pour éviter un drame humanitaire comme celui-ci, car la situation était prévisible au regard du contexte sécuritaire de la région.
Le constat, on l'a eu depuis la dernière éruption, c'est que les ONG, ils ont beaucoup de processus à suivre avant de commencer avec les urgences humanitaires. Et nous, en cette place, on s'était dit qu'on n'allait pas croiser les bras et on s'est cotisé avec les paix qu'on avait. Et c'est comme ça que nous sommes là, en train de donner du pain, de la bouillie aux enfants et aux femmes allaitantes et aux personnes de troisième âge.
Notez que ce groupe de jeunes volontaires n'en est pas à son première action humanitaire. Ce jeune était encore impliqué lors du sinistre de la dernière éruption volcanique en mai 2021, mais aussi pendant la période de la pandémie de COVID-19. De Paul Bakoulou appelle d'autres jeunes à se joindre à eux pour apporter de la chaleur à ces personnes meurtries. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, arrivé hier à Goma d'une délégation des officiers kenyans. Selon les sources militaires, c'est un prélude au déploiement des troupes kenyanes dans l'est de la RDC. À leur arrivée à Goma, ces officiers ont eu une réunion de haut niveau avec les responsables de l'armée, mais rien n'a filtré de cette rencontre. D'autres sources anonymes confirment par ailleurs l'arrivée déjà du premier convoi des soldats de l'East African Community des troupes kenyanes à Goma. Sans plus, tous nos efforts pour confirmer ces informations avec l'armée restent toujours sans succès. En Ituri, des dizaines de journalistes et des acteurs de la société civile ont bénéficié samedi et ce lundi d'une formation sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine à Mahagi et à Aru Centre, respectivement à 180 et 300 km au nord de Bunia. Cet atelier est organisé par la section de l'information publique de la MONUSCO dans le but d'aider les participants à éviter ce fléau qui est à la base des violences et d'instabilité de leurs entités. Ces derniers ont remercié la MONUSCO pour cette initiative pour la promotion de la paix dans la province de l'Ituri. Des détails avec Jean-Claude Lokidile.
Les participants étaient outillés sur la notion de la désinformation et des discours de haine véhiculés à travers les réseaux sociaux et les médias et leurs conséquences sur la société, notamment les violences, le manque de cohésion sociale et même la guerre. C'est le chef de la formation publique de la MONUSCO, Annie Thoury. Ces deux fléaux gangrènent la société. Jean-Toby Okala.
Il y avait un double objectif, vous donner des conseils pour mieux faire votre métier et ensuite des outils, vous les donner afin que vous ne tombiez pas dans la propagation de la désinformation et des discours de haine qui sont véritables fléaux, n'est-ce pas, qui gangrènent nos sociétés modernes.
De leur côté, les participants ont fait part de leur manque de formation et se sont engagés à corriger leurs erreurs pour la recherche de la paix. L'un d'eux, Eliezer Pitoua.
Et il est très important que la radio joue pleinement son rôle dans le rétablissement de la paix. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse connaître effectivement comment informer objectivement le public de manière à ne pas pouvoir mettre la population dans une situation où on peut encore creuser des plaies qui étaient déjà en train de se cicatriser.
Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
À l'Équateur, le cadre de concertation de la société civile a exprimé ce week-end une inquiétude sur la léthargie constatée dans le processus électoral dans la province. À un mois de la révision du fichier électoral, indique le cadre, la population n'est pas mobilisée. Le cadre de concertation de la société civile évoque notamment le manque de sensibilisation. En même temps, ce cadre recommande à toutes les parties prenantes de se mobiliser afin d'amener la population à s'approprier ce processus. Le président du cadre de concertation de la société civile à l'Équateur, El Mungunza, l'a dit au micro de Paul Richard Malengela.
On ne sent aucun engouement populaire. La population n'est pas suffisamment mobilisée, sensibilisée pour qu'elle participe de manière massive à ces processus. Alors que ça relève de la souveraineté populaire. Le peuple est souverain et il agit par le biais des élections. C'est ainsi que nous sommes très très inquiets, d'autant plus que si dans les processus passés, nous avons eu des dirigeants qui n'ont pas su prendre en compte les préoccupations de la population, c'est parce que nous avons fait un mauvais choix. Et il est temps maintenant que l'on puisse sensibiliser la population, l'éduquer de manière à ce qu'elle puisse faire les bons choix et faire en sorte que nous puissions avoir les dirigeants que nous méritons qui pourront permettre à ce que la province aille de l'avant. Et la population doit commencer d'abord par s'inscrire massivement. Parce que nous lisons également dans les chiffres de la population une certaine lassitude. La population est vraiment déçue de la prestation des dirigeants, déçue des résultats des élections qui, semble-t-il, ne sont pas ce qu'ils devraient être. Et donc, beaucoup se décident à ne pas aller voter, ce qui est très dangereux pour la démocratie naissante de notre pays.
Le secrétaire exécutif de la CENI Équateur indique que le processus est plutôt en marche dans cette province. Son bureau vient de procéder au recrutement des agents destinés à cet enrôlement. Achille Boekela dit avoir aussi lancé la sensibilisation des futurs électeurs, à savoir des jeunes de 16 et 17 ans, à travers des écoles de Mbandaka.
Actualité internationale.
Les autorités tchadiennes ont accepté qu'une mission d'enquête internationale soit déployée pour la lumière sur les violences du 20 octobre où les manifestations opposées à la transition ont officiellement fait une cinquantaine de morts et 300 blessés. Une mission de facilitation de la communauté économique des États d'Afrique centrale est en cours depuis le 25 octobre. Et puis au moins 3 millions de personnes ont été affectées par les inondations qui ont touché presque tous les États du Nigeria ces dernières semaines. Dans les communautés du delta du Niger, les habitants vivent les pieds dans l'eau depuis près de 2 mois, même si l'eau a commencé à redescendre après le gros des inondations à la mi-octobre.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'activiste et artiste et musicien de Paul Paluku. Ce membre du collectif Goma Action, un groupe de jeunes volontaires, appelle à la population congolaise à assister les milliers de déplacés installés dans les abris de fortune en territoire de Nyiragongo. De Paul Paluku s'entretient avec Sifa Maguru.
Bonjour monsieur.
Bonjour, bonjour.
Qu'est-ce que vous faites ici au camp de déplacés de KMB?
Oui, en fait, nous sommes venus en assistance pour les déplacés des gueux qui sont là depuis jeudi de la semaine passée. Le constat, on l'a eu depuis la dernière éruption, parce que les ONG ont beaucoup de protocoles et ils ont beaucoup de processus à suivre avant de commencer avec les urgences humanitaires. Et nous, en cette place, on s'était dit qu'on n'allait pas croiser les bras et on s'est cotisé avec les paix qu'on avait. Et c'est comme ça que nous sommes là, en train de donner du pain, de la bouillie aux enfants et aux femmes allaitantes et aux personnes de troisième âge.
Apparemment, c'est chaque semaine que vous êtes là. D'où trouvez-vous le moyen et comment s'est organisée cette assistance?
Nous le faisons chaque jour avec les moyens de bord. Et c'est avant tout les cotisations des jeunes de Goma. Dans les collectifs, il y a des jeunes activistes, des jeunes avocats, des joueurs, des basketteurs, des artistes, des humanitaires. Que nous regroupons nous tous et nous contribuons chacun à son niveau pour voir comment faire. Au-delà de ça, nous avons lancé maintenant une campagne en ligne où chacun peut contribuer. On a lancé le numéro RTL sur lequel les gens qui ont des petits moyens peuvent aussi contribuer et nous aider à aider ces jeunes Congolais comme nous qui subissent des choses qu'ils ne devraient pas subir.
Et par jour, vous pouvez servir au moins combien de personnes?
On estime maintenant 5000 personnes. On estime 5000 personnes, les enfants, les femmes allaitantes et les vieux. Et c'est parce qu'on n'a pas aussi assez de moyens, mais le besoin est encore énorme. Et on reste réceptif aux gens de bonne foi qui veulent aussi nous accompagner et aider ces jeunes qui sont derrière l'avenir de ce pays.
C'est seulement la bouillie ou il y a autre chose?
Nous faisons la bouillie et du pain.
Chaque jour.
Ce qui est différent, par exemple, avec la période du volcan, on avait eu beaucoup d'appui et on faisait la bouillie et la nourriture. Mais vu les moyens de bord que nous avons, ce que ça nous permet qu'au moment présent, de faire seulement la bouillie pour les enfants.
Alors, au moment où tout le territoire est presque surchargé de déplacés, comment vous faites? Est-ce que vous passez sur chaque site ou comment vous vous organisez?
En fait, nous faisons d'abord des descentes d'évaluation, mais nous, on ne va pas les faire comme les ONG. Déjà, nous, on connaît par exemple que les besoins les plus primordiaux, c'est de l'eau, c'est la nourriture, c'est les couvertures. Et nous, on essaie de voir aussi les camps qui n'est pas débordé, là où il y a des gens qu'on paye facilement venir à leurs besoins. Et nous, c'est pour ça, par exemple, qu'on est dans ces camps. C'est les camps qui a une population moyenne de déplacés comparativement au camp de Kanyaruchinya. Vraiment, Kanyaruchinya s'est débordé. On sait qu'avec les moyens de bord, on ne peut pas y arriver. C'est comme ça qu'on a choisi ces camps, parce qu'ici, il y a équilibre entre nos moyens et les gens qui sont ici.
Qui fait la cuisine là de la bouillie?
La cuisine, c'est les jeunes, c'est nous-mêmes. Nous le faisons nous-mêmes avec l'accompagnement de tous les autres bénévoles que nous croisons des fois ici. C'est avant tout les jeunes bénévoles que nous sommes qui faisons toutes les contributions, la préparation et la distribution.
Et pour terminer, quel plaidoyer pouvez-vous faire par rapport à cette situation que nous voyons ici? Vous vivez ça au quotidien, vous touchez la misère de la population.
Oui, en fait, le plaidoyer à faire, c'est que la situation elle est trop désastreuse. Et je pense que le gouvernement congolais devrait travailler sur des prévisions, ne pas attendre que des situations comme ça arrivent pour qu'on commence à se dire qu'est-ce qu'on va faire. Je pense qu'il fallait vraiment définir des mécanismes d'avance. Déjà, on sait qu'on est entouré des mouvements rebelles à gauche, à droite, au nord et au sud. Et s'il faut entendre qu'il y ait des déplacés pour commencer à étudier ce qu'il faut faire, ça ne marchera jamais. Je pense que le grand plaidoyer à faire, c'est l'étude prévisionnelle d'assistance en cas de danger, parce que vraiment le nord qui voulait menacer, et c'est connu. Pourtant, tout le monde savait que la menace était très prévisible. Et aussi, c'est un appel aux Congolais à Goma. Goma, c'est une ville qui compte presque 3 millions de personnes. Et parmi les 3 millions de personnes, il y a des millions de chrétiens et des églises qui nous bondent partout. Parce que prier, c'est bon, mais aller vers des actions ou une solidarité agissante serait mieux que rester en train de prêcher. Pourtant, on prêche l'amour. Les gens doivent quitter leur zone de confort et venir. Ces gens ont besoin aussi de la chaleur. Il y a juste des gens qui ont besoin d'être écoutés, il y a des gens qui ont besoin de ce salaire humain. Et ce que ça ne suffit pas d'aider les gens étant de très loin. Ils ont besoin d'au-delà même de l'aspect matériel. Ils ont besoin de l'affection, ils ont besoin du dialogue, de l'écoute. Et c'est une thérapie matérielle qui peut leur servir aussi d'une autre manière.
Merci beaucoup, monsieur.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de ce journal, l'activiste, artiste et musicien de la ville de Goma, de Paul Paluku. Ce membre du collectif Goma Action, un groupe de jeunes volontaires, s'entretenait avec Sifa Maguru. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi.